Cette émission vous est proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, la banque de référence pour un impact durable sur l'intégration et la transformation de l'Afrique de l'Ouest.
Écho d'ici, écho d'ailleurs.
Bruno Faure.
Bonjour, bonjour à tous. Hello everybody. Bienvenue dans un écho d'ici, écho d'ailleurs, made in USA. Let businesses grow. Cut those taxes. Watch that dough flow. Made in the USA. Bring it back home. Drill, baby, drill. Watch the lights stay on. Où va l'économie de la première puissance mondiale, l'économie américaine, bien sûr. Ces derniers mois, nous avons beaucoup parlé des conséquences des décrets de Donald Trump sur le commerce international. Mais qu'en est-il dans son propre pays, celui qui l'a fait revenir à la Maison-Blanche?
Starting on day one, we will end inflation and make America affordable again.
This is CNN Breaking News.
And we begin with the breaking news from Wall Street. And nervous investors, very nervous investors, are weighing in on President Trump's historic new global tariffs.
We will drill, baby, drill.
À Chicago, dans le très conservateur Texas, à Galveston, jusqu'à New York. Dans les grandes villes du pays, des Américains se sont mobilisés samedi contre Donald Trump.
Let us defeat Trumpism. Let us create the kind of America.
Que pensent les Américains des premières mesures économiques de leur 47e président? Subissent-ils déjà l'inflation? Sont-ils inquiets pour l'avenir? Quels sont les secteurs qui en bénéficient? Et à plus long terme, les États-Unis se dirigent-ils vers la récession que beaucoup d'économistes prédisent? 100 jours après l'investiture de Donald Trump, nous allons donc prendre le pouls de cette Amérique plus que jamais divisée et qui attend, avec espoir ou inquiétude, les résultats d'une politique économique volontariste. Nous serons aux quatre coins du pays, le Texas dans le sud, conservateur, pétrolier, état de commerce avec le Mexique et traditionnellement une zone d'immigration. La Californie, à l'ouest, première concernée par les échanges avec l'Asie et par le secteur de la tech qui attendait beaucoup de Donald Trump. À l'autre extrémité, nous serons à New York, la ville cosmopolite par excellence, plutôt démocrate, et puis dans le nord, le Wisconsin, l'un de ces swing states où l'évolution de l'économie pour les particuliers et les entreprises a forcément un impact décisif dans les urnes. Nous traverserons même la frontière canadienne, tout près de Détroit, pour voir comment les ouvriers de l'automobile partagent des deux côtés les mêmes interrogations. Et bien sûr, nous commenterons ces multiples enjeux avec un économiste de renom, Thomas Philippon, professeur d'économie financière à la Stern School of Business à la New York University. Nous parlerons bien sûr avec lui du bras de fer entre Donald Trump et la Fed sur les taux d'intérêt. Merci à tous de nous suivre à la radio et en podcast sur RFI.fr, sans oublier la chaîne YouTube de RFI pour nos entretiens avec les invités de l'économie. Avant tout cela, et pour une première approche de cette Amérique de Donald Trump, j'appelle quelqu'un qui n'est pas économiste, même si elle est passée par HEC, diplômée ensuite en fiscalité internationale à l'université d'Assas, avant une expérience dans l'entreprise, dans le secteur de l'art aux États-Unis. Elle est franco-américaine, elle est en ligne de New York où elle réside. Bonjour Julie Girard.
Bonjour Bruno Faure.
Vous êtes aussi doctorante en philosophie, vous êtes essayiste. Vos romans « Le crépuscule des licornes » et « Les larmes de Narcisse », tous deux parus chez Gallimard, évoquent d'ailleurs pour le premier l'Amérique de la tech, l'univers des start-up, le second les mondes virtuels. On va donc faire appel à votre sens de l'observation. Comment réagissent les New-Yorkais au retour de Donald Trump avec un tout petit peu de recul? On a vu récemment des images de manifestations anti-Trump, mais on imagine que tout le monde n'est pas sur cette ligne.
Non, bien sûr. New York est historiquement un bastion démocrate. Kamala Harris a remporté l'élection dans l'État avec plus de 56% des voix. Donc, la population new-yorkaise est certes partagée, mais globalement, je dirais qu'elle est plutôt opposée, voire par certains aspects hostile à la politique de Donald Trump. Il faut garder en tête que New York, c'est le siège de Wall Street. L'oscillation des marchés a échaudé de nombreux acteurs du secteur. C'est aussi le siège de l'Université de Columbia, à laquelle l'administration Trump a livré une bataille financière en raison de ses dérives antisémites importantes.
Oui, je précise juste, suite à des manifestations pro-palestiniennes sur le campus de Columbia, et Donald Trump qui a accusé les dirigeants de l'université d'inaction face à des actes qu'il juge antisémites.
Et puis c'est une ville sanctuaire, c'est-à-dire une ville qui refuse de coopérer pleinement avec les autorités fédérales chargées de l'immigration. Et puis enfin, je crois que c'est quand même une place forte du progressisme woke, et donc ce que combat le Parti républicain.
Ça se voit dans New York, il y a des signes de ces désaccords entre Américains sur l'appréciation du mandat de Donald Trump.
Ce qu'on a vu déjà depuis l'élection, à la période de l'élection, ça avait été quand même une difficulté aujourd'hui de plus en plus forte pour les démocrates d'échanger avec des républicains. Quand je suis arrivée aux États-Unis il y a 15 ans, ça n'était pas comme ça. Le dialogue était beaucoup plus ouvert. Aujourd'hui, les positions sont très crispées et on le voit à travers des manifestations dans les rues de New York récurrentes, des tags contre le gouvernement. Si vous voulez, on sent quand même une sorte d'hostilité larvée assez forte que vous aurez probablement pas en Floride ou dans des États comme le Texas. Mais à New York, c'est palpable.
Julie Girard, est-ce que vous diriez que Trump est le président du peuple, c'est ce qu'il dit lui, ou alors celui d'une élite, les élites économiques, les élites financières? Et puis la question sous-jacente, est-ce qu'il peut rassembler à terme?
Alors moi, je pense foncièrement que le président Donald Trump est le président de Main Street, c'est-à-dire des classes moyennes, bien plus que des élites. Pourquoi ? Parce que la décision de Donald Trump d'imposer des tarifs douaniers importants, notamment à l'égard de la Chine, c'est-à-dire la remise en cause, d'une certaine manière, de la mondialisation heureuse, tout comme d'ailleurs la politique d'économie drastique menée par le DOGE, le département de l'efficacité gouvernementale, dont Elon Musk a été jusqu'à présent, en tout cas, responsable, traduisent à mes yeux une stratégie de long terme qui n'est pas évidente à mettre en place et à assumer, qui poursuit deux objectifs, la réduction du déficit abyssal des États-Unis, qui avoisine les 36 000 milliards de dettes. Ce déficit colossal crée de l'inflation. Cette inflation est celle qui a touché le plus la classe moyenne au cours des dernières années, et notamment de l'administration du mandat de Joe Biden, parce que l'élite a bénéficié des rendements du capital qui étaient supérieurs à l'inflation, mais la classe moyenne, même si elle a bénéficié de la croissance, elle a profondément souffert. Et ensuite, je pense que cette stratégie de Donald Trump a pour objectif également une réindustrialisation qui ne sera pas totale, on ne revient pas à l'ère industrielle d'avant, mais je dirais qu'une réindustrialisation partielle qui peut bénéficier aussi à cette classe moyenne. Je pense notamment à l'entreprise Nvidia qui produisait auparavant la plupart de ses puces à Taïwan et qui prévoit d'investir jusqu'à 500 milliards de dollars dans des infrastructures d'intelligence artificielle aux États-Unis. Donc, il pourrait y avoir aussi, si vous voulez, un levier de réindustrialisation par ce biais-là. Et ma position rejoint celle de Oren Cass, qui est un économiste en chef du think tank conservateur de Washington, American Compass, qui voit lui aussi, donc, si vous voulez, à court terme, cette stratégie est récessionniste et inflationniste, mais à long terme, elle pourrait rebattre les cartes et provoquer, si vous voulez, de nouvelles opportunités pour une classe qui a profondément, profondément souffert de l'inflation ces dernières années.
Vous diriez donc que c'est un président du long terme. C'est souvent ce qu'on critique chez les dirigeants politiques, c'est de réfléchir avant tout au court terme. Vous pensez que Donald Trump, finalement, est un incompris de ce point de vue ?
Je pense que la politique de Donald Trump dans ce deuxième mandat est totalement différente de la première, qu'il essaie de mettre en place une stratégie de long terme entourée de personnes compétentes comme Scott Bessent, que ce n'est pas évident à mener parce qu'effectivement, ça crée beaucoup de tensions. En tout cas, je pense qu'il a l'objectif, le désir d'essayer. Est-ce qu'il parviendra à ses fins ? On ne sait pas. Tout va dépendre effectivement de la capacité à mettre en place des changements importants avant les prochains midterms.
Un mot peut-être, Julie Girard, de son alliance potentiellement de circonstances avec Elon Musk, au vu de leur personnalité, de leurs intérêts économiques potentiellement divergents. Là, on vient de voir que Elon Musk veut se mettre un petit peu en retrait, se concentrer un peu plus sur ses entreprises.
Oui, je crois que l'alliance de Donald Trump avec Elon Musk, c'est une alliance de personnalités et de circonstances, comme vous le dites, qu'elle pourrait effectivement ne pas durer d'un point de vue opérationnel. Elon Musk, quand même, gère près de 6 entreprises de taille gigantesque, donc il va falloir qu'il retourne au travail. Mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est vraiment l'idée que cette alliance, c'est l'émanation d'un mouvement de convergence politique beaucoup plus profond et plus ancien entre les libertariens qui sont en faveur d'un État minimal, dont Elon Musk est l'une des incarnations, et l'aile droite des conservateurs. Et cette convergence, que l'on a appelée le fusionnisme, a été initiée par l'anarcho-capitaliste Murray Rothbard et a donné lieu à l'émergence de ce mouvement contemporain qu'on appelle le paléolibertarianisme et qui dit vraiment quelque chose d'un changement majeur, je dirais, en matière de politique américaine.
Je précise que vous travaillez, je crois, sur un ouvrage justement sur ce mouvement libertarien. Julie Girard, puisque vous êtes essayiste, vous êtes romancière, est-ce que Donald Trump pourrait être le personnage d'un futur roman? Quel visage pourrait-il avoir dans un futur roman?
Si vous voulez, mon dernier roman, Les Larmes de Narcisse, qui est paru en février 2024 aux éditions Gallimard, était déjà une photographie de l'Amérique contemporaine dans la situation actuelle, puisque le roman anticipe la victoire présidentielle des Républicains avec un personnage très inspiré de Donald Trump. Il met également en scène nos principaux enjeux sociétaux, la question de l'intelligence artificielle, des mondes virtuels, mais aussi la course aux terres rares, que pour ma part, j'ai imaginé en Antarctique, qui pourrait être un prochain objet de convoitise. Donc, clairement, Donald Trump a l'étoffe d'un personnage de roman. Parfois, la réalité dépasse même la fiction.
Merci à vous, Julie Girard.
Merci à vous.
Yeah, I'm out that Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem.
L'Empire State of Mind, hommage à la Big Apple, la grosse pomme par Jay-Z et Alicia Keys, c'était en 2009. Puisqu'on est à New York, on pense aussi à Chinatown, les quartiers chinois, puisqu'il y en a plusieurs, pas que celui de Manhattan. Comment les commerçants vivent-ils ce clash commercial avec Pékin? Karine Auton est l'une de nos correspondantes.
Ils sont assez inquiets. Hein. Tous les quartiers de Chinatown de New York abritent essentiellement de petites entreprises qui importent quasiment tous leurs produits de Chine, que ce soit au rayon souvenirs ou au rayon des plantes médicinales, des nouilles, de l'encens ou du thé. Les restaurants aussi importent quasiment tous leurs ingrédients. Alors certains de ces commerçants sont trumpistes, mais ils commencent à douter de leur choix. Ils avaient voté pour un meilleur pouvoir d'achat, mais avec des droits de douane à 20% actuellement qui pourraient grimper jusqu'à 145%, ils sont anxieux quant à la possibilité de se réapprovisionner, d'autant que la Maison-Blanche ne cesse de changer ce qu'elle annonce. Et c'est un coup particulièrement dur pour cette communauté qui a résisté au Covid-19 et à la haine anti-asiatique qui s'en est ensuivie. Et surtout, c'est loin d'être anecdotique, plus de 17% des entreprises de l'État de New York appartiennent à des Américains d'origine asiatique.
Où va l'économie américaine? Nous prenons l'avion, les distances sont longues et nous atterrissons à présent au Texas.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Nathanaël Vitran, journaliste au service économie de RFI, nous attend dans les environs de Dallas, la troisième ville du Texas, après Houston et San Antonio. Bonjour Nathanaël.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Pour qu'on imagine un peu mieux, où est-ce que vous êtes exactement là, tout de suite?
Alors je suis à Arlington, c'est en banlieue de Dallas, c'est vraiment pas très loin. L'aéroport de Dallas est à 15 minutes seulement. Moi, j'arrive de toute la région. J'arrive d'Austin, en vérité. Je me suis arrêté en route voir des fermiers, voir des installations solaires. Il y a énormément d'installations solaires dans la région. Et puis Arlington, c'est intéressant aussi parce que c'est là que de nouveaux sites de fracking, de fracturation hydraulique ont été décidés tout récemment, vous savez que Donald Trump a cette politique drill, baby drill, fort bébé, fort de relancer l'industrie pétrolière au Texas.
On va en parler dans quelques instants. Depuis quelques jours, vous multipliez les reportages dans ce gigantesque État du Sud, très divers forcément. Votre road trip a commencé à Houston, dans la communauté latino, où vous avez rencontré le patron d'un magasin d'origine mexicaine. On l'écoute.
Okay, my name is Gustavo Reyes. We're here in Houston, Texas.
Je m'appelle Gustavo Reyes. Nous sommes ici à Houston, Texas. Nous faisons de la vente en gros de produits, des fruits, des légumes, des viandes, des fromages. Nous vendons aussi beaucoup de produits mexicains, des bonbons mexicains, de la petite poterie en argile qui vient du Mexique.
Stuff like that, I guess you could call it a lot of clay pottery that comes from Mexico.
La majorité de vos produits vient du Mexique?
Je dirais 85 à 90%.
Comment va le business en ce moment?
Ça commence à repartir. Les gens ont encore peur avec toute cette histoire de droits de douane. Ils attendent de voir ce qui va se passer. On annonce des taxes, puis on les annule. Le marché est un peu fou. C'est assez imprévisible. Heureusement, comme ils font une pause, c'est un peu moins dingue. C'est surtout que les gens sont inquiets parce que les prix changent tout le temps. Je vous donne un exemple. J'achète beaucoup de papier aluminium parce qu'on fournit des restaurants et des vendeurs de tacos. En ce moment, je le paie 25. Mais dès qu'ils annoncent des droits de douane, avant même que le produit soit taxé, le prix grimpe déjà à 30 ou 50. C'est beaucoup. Ce qui affecte le plus les gens, c'est l'incertitude. Et comme la plupart des produits sont périssables, on ne peut pas vraiment acheter à l'avance avant que les droits de douane ne s'appliquent. Le produit se périmerait, donc c'est compliqué de faire quoi que ce soit.
Et donc, quand le prix des produits que vous achetez au Mexique augmente, qu'est-ce que vous faites? Vous absorbez la hausse?
Non, je ne peux pas l'absorber. On a une marge très faible, on est en concurrence avec de grandes entreprises, c'est impossible. On ne peut pas absorber les droits de douane, on est obligé de les répercuter sur les clients. On ajuste nos prix en conséquence. On travaille déjà avec une petite marge, c'est ça l'industrie alimentaire, les marges sont très faibles.
Vous avez un exemple de produit dont vous avez dû augmenter le prix depuis février, par exemple?
Le seul produit qui a vraiment beaucoup bougé, ce sont les avocats et aussi les œufs. Mais les œufs viennent des États-Unis, on ne peut pas en importer.
Et donc pour les avocats, par exemple?
On achète uniquement des avocats mexicains. Ceux de Californie sont plus chers, donc ça ne vaut pas le coup de les faire venir jusqu'ici. Et puis ils sont moins bons, les gens ne les aiment pas.
Est-ce que vous avez constaté un impact sur le nombre de vos clients?
Je dirais que oui, mais ce n'est pas seulement à cause des droits de douane, c'est aussi tout ce qui se passe avec l'immigration, avec la police de l'immigration. À peu près 95% de nos clients sont hispaniques. Si tu descends dans la rue jusqu'au marché des producteurs, il n'y a personne. Surtout en janvier, tout le monde avait peur. Tout était fermé, les gens ne voulaient pas sortir de chez eux. Ça nous impacte beaucoup.
Everyone was afraid, no one was opening, everything was closed, people didn't want to leave their house. It's a pretty big effect.
Gustavo Reyes, le patron d'un commerce de gros à Houston, Nathanaël Vitran, on touche là aux effets immédiats de la guerre commerciale, l'incertitude spécifiquement dans une zone frontalière.
Oui, et c'est particulièrement vrai pour ces commerces latinos, on l'entendait, hein, 80-90% des produits viennent du Mexique, mais ça touche tous les commerces. Le Mexique représente plus de 60% des importations de légumes aux États-Unis, la moitié des fruits importés viennent du Mexique. Alors le cas de la communauté latino, évidemment, il est particulier, non seulement parce que c'est une communauté qui se... culturellement qui s'approvisionne en produits venus du Mexique, mais c'est aussi une communauté spécialement à Houston où elle est très importante qui est ciblée par les raids des services de l'immigration. Ces commerces latinos eux-mêmes ont été particulièrement visés. C'était surtout vrai au début, ça l'est peut-être un petit peu moins aujourd'hui, mais en tout cas, il y avait une peur légitime de ces Mexicains, de ces Sud-Américains qui n'ont pas toujours tous les papiers nécessaires et qui avaient peur de se rendre dans ces commerces latinos, imaginant, encore une fois, à juste titre, que les services migratoires pourraient particulièrement les cibler. Je disais, ça touche particulièrement les sans-papiers, mais il y a aussi au Texas beaucoup de personnes qui ont passé toute leur vie quasiment aux États-Unis, mais parce qu'elles sont nées au Mexique, au Guatemala ou au Venezuela, par exemple, n'ont pas encore la nationalité, même si leurs enfants sont, eux, américains. Eux, souvent, ne le sont pas. J'ai rencontré une dame ainsi qui faisait ses courses. Elle s'est mise à pleurer en me disant qu'elle avait peur à chaque fois qu'elle sortait, peur d'être arrêtée pendant que ses enfants sont à l'école, peur d'être séparée d'eux. Alors, c'est d'abord, évidemment, un drame humain, mais ça a des conséquences économiques pour ces nombreux commerces qui s'appuient sur des produits mexicains, puisque leur clientèle, mais parfois même leurs employés, ont fui ces endroits.
Cette question migratoire qui est omniprésente au Texas, hein, et qui ne touche pas que la communauté latino.
Non, le Texas, c'est un des États les plus importants économiquement aux États-Unis. Il y a énormément d'entreprises technologiques, notamment, qui se sont installées ici. J'évoquais tout à l'heure les industries de l'énergie, du pétrole, les industries du solaire, de l'éolien. Ce sont des industries qui ont aussi recours à une main-d'œuvre étrangère très qualifiée. Et j'ai rencontré à Houston un avocat spécialisé dans le droit à l'immigration. Son travail en temps normal, c'est d'aider les entreprises qui ont embauché un professionnel, un spécialiste non américain. Ça arrive tout le temps dans ce domaine, dans ces domaines de la tech. Donc c'est des démarches administratives relativement banales. Et il me disait que les employeurs étaient en panique en ce moment. Alors on a beaucoup parlé des étudiants étrangers dont le visa a été abrogé. La plupart d'entre eux avaient vocation, voire avaient commencé à s'insérer sur le marché du travail aux États-Unis, au Texas. Et ces entreprises se retrouvent à devoir gérer des raids des services de l'immigration, des fameux ICE, sur leur lieu de travail. C'est une situation chaotique. Et puis, comme pour les tarifs douaniers, il y a beaucoup d'incertitudes. Et vous savez que les milieux d'affaires n'aiment pas du tout l'incertitude.
On parlait tout à l'heure de la question des prix avec ce commerçant d'origine mexicaine, l'inflation. Est-ce que c'est un sujet dont on parle au Texas dans les rencontres que vous avez faites ces derniers jours ?
Oui, c'est un sujet qui revient souvent. Alors, il est peut-être encore un peu tôt pour voir réellement les effets de la politique de Donald Trump sur les prix. Mais je dirais qu'à ce stade, c'est d'abord et surtout un sujet politique. On parle souvent du cas particulier des œufs devenus introuvables, extrêmement chers. Alors, c'est la conséquence d'une épidémie de grippe aviaire particulièrement virulente qui date d'il y a déjà plusieurs mois. Mais dans un pays qui est très divisé, comme les États-Unis l'est en ce moment, selon à qui vous posez la question, on va vous dire que c'est la faute de Joe Biden ou alors que c'est celle de Donald Trump. Là, c'est pour vous donner un exemple de l'utilisation politique de faits économiques. Mais de manière générale, les Américains sont très conscients que cette guerre commerciale qui est en cours avec non seulement les alliés traditionnels des États-Unis, mais aussi avec la Chine, va avoir des conséquences sur les prix, ils le savent.
D'ailleurs, il y a quelques jours et donc plusieurs mois après le retour au pouvoir de Donald Trump, vous avez pu assister à une discussion, un échange entre un élu républicain et des électeurs américains. Qu'est-ce que ça a donné ?
Oui, je suis allé voir ce qu'on appelle ici un town hall, une réunion publique entre un élu et ses administrés, dans un comté où Donald Trump est arrivé très 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 confortablement en tête en novembre. Eh bien, ces sujets sont revenus malgré tout. Est-ce que la guerre tarifaire va entraîner une hausse des prix ? Ils s'inquiètent, les Américains, de la crise des marchés financiers. Il faut avoir en tête qu'aux États-Unis, pour avoir un revenu à la retraite, pour avoir une retraite tout simplement, on met de l'argent dans des fonds de pension. Et ces fonds de pension sont indexés sur les marchés financiers. Donc quand les marchés s'effondrent, comme on l'a vu il y a quelques semaines suite à la politique commerciale très hostile de Donald Trump, eh bien ça a une conséquence directe sur les retraites, les pensions des Américains. Donc tous ces sujets sont revenus. Alors il faut le dire quand même, ces attaques dans un comté très républicain sont malgré tout venues plutôt de gens qui n'avaient pas voté Donald Trump.
Chez les autres, chez les électeurs toujours convaincus de Donald Trump, est-ce qu'on parle encore de ce make America great again?
Oui, il y a ceux qui sont persuadés que les prix ont déjà baissé, qui font comme si tout allait déjà pour le mieux. En vérité, je vous le disais tout à l'heure, il est encore trop tôt pour voir très concrètement les effets de la politique actuelle sur les prix, même s'il y a évidemment sur les fruits, les légumes, ce genre de choses plus immédiates déjà des choses qu'on peut matérialiser. Mais en tout cas, il y a une forme On veut croire que ça marche, et puis même chez ceux qui sont conscients qu'il y aura des difficultés, que les difficultés économiques sont déjà là, risquent de s'accumuler, on est persuadé que ça fait partie du plan, que Donald Trump, s'engage dans un bras de fer avec les partenaires commerciaux des États-Unis, mais que, in fine, ce sont les États-Unis qui vont le remporter, ce bras de fer, et que les États-Unis en sortiront grandis. Donc on se dit qu'il y a la lumière au bout du tunnel et que c'est un mal pour un bien.
La fin justifie les moyens.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Nathanaël Vitran, journaliste au service économie et envoyé spécial de RFI, est au Texas pour Écho d'ici, écho d'ailleurs. Ce Texas, c'est un état pétrolier, on l'a dit, Nathanaël. On attend ce fameux drill, baby drill, avec impatience.
Oui, même si c'est plus nuancé qu'on pourrait le penser, je suis allé voir à Beaumont. C'est une petite ville, en tout cas une ville moyenne, près de Houston, pas très loin de la Louisiane. C'est une ville assez symptomatique pour le Texas, parce que c'est un des berceaux du pétrole texan. C'est là qu'a été découvert un des tout premier gisement au tout début du XXe siècle qui a été exploité et qui a fait du Texas la puissance pétrolière qu'elle est aujourd'hui. Les raffineries, les industries pétrochimiques font encore vivre des milliers de personnes dans cette région. Les universités de la ville forment les gamins du coin à gravir les échelons dans ces entreprises pétrolières. Et pourtant, même dans cette ville où le pétrole est au centre de toute l'économie, eh ben, j'ai entendu des gens me dire que le pétrole avait fait son temps, qu'il fallait penser à l'environnement, qu'ils regrettent par exemple la décision de l'administration Trump d'autoriser de nouveaux forages dans des parcs nationaux. Et puis il y a une forme de contradiction de manière générale dans cette politique de Donald Trump qui, en même temps, veut drill baby drill, augmenter la production, faire baisser le prix du pétrole. Alors il faut se souvenir que l'extraction pétrolière au Texas, particulièrement dans la ville d'Arlington où je me trouve, c'est de la fracturation hydraulique, du fracking. Et sans rentrer dans le détail technique, disons que c'est très coûteux, ça coûte très cher d'extraire du gaz et du pétrole de cette manière. Et si le baril de pétrole descend sous la barre des 70 $, ça n'est même plus rentable de le faire. Or, notamment du fait de la guerre commerciale avec la Chine, eh bien le prix du pétrole est passé justement en dessous de cette limite. Donc voilà, il y a une forme de contradiction dans cette politique de Donald Trump, auquel beaucoup d'habitants, hein, je ne veux pas le nier non plus, auquel beaucoup d'habitants ici au Texas adhèrent, mais qui est quand même accueilli de manière un peu plus nuancée qu'on pourrait le penser.
Pétrole, ton univers impitoyable. Le Texas, Nathanaël, avait beaucoup investi dans les énergies renouvelables ces dernières années, justement pour diversifier les sources d'énergie. Est-ce que ça a changé quelque chose?
Oui, il y a des fermes solaires gigantesques. J'en ai visité une pas plus tard que cette semaine, des centres de batteries électriques poussent un peu partout, des éoliennes dans les champs. L'objectif, c'est d'alimenter en électricité notamment les grands groupes de la technologie, de la tech, qui se sont installés ici ou réinstallés ici, qui ont installé des centres. Par exemple, l'immense ferme solaire que j'ai visitée cette semaine alimente Google. Et après, il y a là aussi une forme de contradiction, en tout cas un accueil qui peut être un peu plus nuancé qu'on l'imagine, puisque ces fermes solaires prennent de la place, elles remplacent des champs. J'ai aussi rencontré un agriculteur qui me disait qu'il avait été sollicité à de nombreuses reprises pour louer ses parcelles à des groupes qui voulaient y mettre soit du solaire, soit de l'éolien. Lui n'y était pas favorable. Le Texas, vous le disiez, avait largement bénéficié du Green Deal voté sous Joe Biden. Il y avait eu beaucoup d'investissements fédéraux qui avaient été faits quand l'administration était démocrate. Donald Trump est revenu sur beaucoup de ses programmes. Là encore, il faudra voir à plus long terme si c'est la logique politique ou la logique économique qui finit par l'emporter, puisque il faut quand même noter que ces projets ne se sont pas arrêtés. Les besoins en électricité sont énormes. Ils vont continuer d'augmenter, on le sait, du fait de l'augmentation de la population, du fait des besoins des entreprises technologiques qui sont installées. Donc il y a quand même une logique économique à poursuivre ces investissements. Le pétrole à lui seul ne pourra pas tout faire.
On sent qu'il y a pas mal de doutes, pas mal d'interrogations et des propos plus nuancés qu'on l'imagine a priori. Merci Nathanaël Vitran.
Merci à vous.
Bonne suite de reportages au Texas. On vous retrouvera dans quelques jours sur RFI pour une journée spéciale à l'occasion des 100 jours au pouvoir de Donald Trump.
We're having a situation, a real situation.
Une respiration dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, venue d'à peine plus au sud, les Caraïbes et la Jamaïque. Clinton Fearon, en tournée d'ailleurs en ce mois de mai aux États-Unis. Are you ready? Sleepwalking, c'était Clinton Fearon sur RFI.
Are you confused about the economy? Well, have no fear. I'm going to explain the American economy right now.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur les routes américaines pour imaginer l'avenir économique des États-Unis de Donald Trump. Nous sommes en ligne avec l'économiste français Thomas Philippon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Université de New York. C'est là d'où vous nous parlez. Tout simplement, comment jugez-vous ces premiers mois au pouvoir de Donald Trump, est-ce qu'il va accroître les inégalités, comme certains le disent ?
Aussi avec ça. Je pense que c'est les premiers mois d'une présidence américaine les plus désastreux dans l'histoire des États-Unis, de très très loin. Même en essayant d'être charitable, il y a juste rien à trouver, quoi. C'est une catastrophe du début à la fin dans tous les domaines, l'économie étant juste un de ces domaines.
Les milieux d'affaires, là, qui commencent à s'inquiéter, c'est le signe que c'est le début de la fin ?
Non. Je pense pas. Je pense que c'est d'abord la réalisation. Ils avaient pris leur vessie pour des lanternes, c'est-à-dire ils avaient écouté les discours de Trump pendant la campagne et ils en avaient tiré l'interprétation qu'ils souhaitaient, pas du tout l'interprétation qui était la plus réaliste. Et donc ils sont surpris de découvrir que Trump fait ce qu'il avait dit, c'est-à-dire n'importe quoi.
Les partisans de Donald Trump disent oui, il va y avoir de l'inflation, oui, il y aura peut-être une récession dans un premier temps, mais à terme, on va juguler l'inflation, on va faire revenir les entreprises sur le sol américain. Le court et le long terme. Vous n'êtes manifestement pas d'accord avec cette analyse.
Oh ben non, mais là, la question, c'est pas si on est d'accord ou pas. La question, c'est est-ce que c'est de la stupidité ou de la malhonnêteté. La question, c'est pas de savoir si on est d'accord. C'est tellement débile qu'il n'y a pas à discuter de ça. On peut discuter est-ce qu'ils sont vraiment idiots au point d'y croire ou est-ce qu'ils sont malhonnêtes et que cela dérange pas de mentir à tour de bras. Mais l'idée que les tarifs vont refaire démarrer l'emploi manufacturier aux États-Unis, ça n'a juste aucun sens. Ça peut pas être ça le but. En fait, ce qui est difficile avec cette équipe, le seul qui est un petit peu cohérent, c'est le secrétaire du Trésor, comme on dit ici.
Oui, Scott Bessent, le secrétaire au Trésor.
Voilà, lui, il est assez, il a les pieds sur terre. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a des gens qui sont amusés à regarder les corrélations sur les marchés financiers en fonction de qui a un meeting avec Trump. Effectivement, quand c'est lui qui a un meeting avec Trump, les marchés ont tendance à augmenter. Ou au moins parce que c'est la figure, alors que quand c'est Navarro, les marchés dégringolent. Mais non, la difficulté avec Trump, c'est qu'il y a un petit peu toujours deux lectures. Il y a une lecture chaotique, mais pas forcément hyper pessimiste, et une lecture nettement plus pessimiste. La lecture chaotique, mais pas forcément très très pessimiste, c'est que il a pas de plan, il a des lubies. Donc, bon, déjà, il est un peu sénile. Je pense qu'il y a plein de choses qu'il comprend pas. Ensuite, il a pas de plan. Il a juste des lubies. Une de ses lubies, c'est ses histoires de tarifs et de droits de douane. Et donc, il s'est entouré de sycophantes qui lui disent ce qu'il a envie d'entendre. Et donc, ils font n'importe quoi. Ça a un impact négatif sur l'économie à tous les niveaux. Mais il n'y a pas vraiment un plan qui va au-delà de ça. Alors ça, c'est un peu l'interprétation charitable entre les deux. C'est plus dans la compétence que de la malice. L'interprétation moins charitable, c'est que en fait, il y a un plan. Le plan, c'est de transformer les États-Unis d'Amérique en une démocratie autoritaire, sur le modèle de ce qu'on voit dans certains pays, genre la Hongrie ou plus extrême encore la Russie. Et dans ce cas-là, il faut museler les gens qui ont une voix normalement. Donc ça a commencé par la presse, ensuite il y a les universités, mais il y a aussi évidemment le milieu des affaires. Et la meilleure manière de milieu des affaires, c'est de faire des politiques comme ça qui sont complètement aberrantes, mais qui forcent les patrons à faire des deals avec Trump pour éviter d'en prendre les conséquences en pleine face. Donc du coup, ils peuvent pas se plaindre individuellement, parce que leur intérêt propre, c'est d'essayer d'avoir un deal pour justement que les tarifs ne s'appliquent pas trop à leur industrie. C'est ce qu'on a vu récemment. Et donc ça, c'est l'intention plus pessimiste, qui est de dire que non, c'est pas juste qu'ils font n'importe quoi, c'est qu'en plus, ils ont un plan autoritaire et que cette stratégie de tarifs à tout va fait partie de ce plan autoritaire. Alors la difficulté avec Trump, c'est qu'on ne sait jamais si c'est l'interprétation de cette manière un peu naïve, c'est juste qu'ils sont incompétents, ou s'il y a la malice derrière. Et personnellement, je sais pas juger entre les deux. Je pense que probablement il y a un peu des deux. Je pense que dans certaines de ces équipes, il y a plus ou moins de l'un. Je pense que Navarro, il est juste incompétent. Du côté des vice-présidents, c'est plus ambigu. Mais je pense que c'est la grille de lecture. Il ne faut pas essayer de chercher une rationalité économique normale. Il n'y en a pas.
Thomas Philippon, du point de vue des entreprises, si on parle des entreprises, qui, à votre avis, va en souffrir le plus? Est-ce que ce sont les plus grosses entreprises ou alors les plus petites?
Je pense qu'il y a deux facteurs. Il y a l'influence politique et l'exposition à la Chine. Donc, disons, l'entreprise qui est très grosse et qui est pas très exposée à la Chine va très bien s'en sortir. Une grosse entreprise, elle aura forcément plus de poids politique. Donc, elle aura la capacité de... Enfin, on est quand même à la limite de la corruption, hein. Faut appeler les choses par leur nom. Mais une grosse entreprise aura plus la possibilité de corrompre le système pour que les tarifs s'appliquent pas à elle. Donc, les gros s'en sortiront mieux que les petites. Ça, c'est toujours vrai dans les systèmes comme ça. Par contre, après, il y a d'autres dimensions qui est la guerre commerciale avec la Chine spécifiquement. Et donc là, une entreprise qui est très exposée à la Chine va souffrir plus. Donc, une entreprise comme Apple, par exemple, en état, c'est un peu ambigu parce qu'ils ont beaucoup de pouvoir de lobbying, mais ils sont aussi une grosse exposition à la Chine. Donc, au total, le net est un peu moins évident.
Vous restez avec nous, Thomas Philippon. Justement, on va donner la parole à un petit chef d'entreprise dans le Wisconsin, tout au nord des États-Unis, entre Chicago et la frontière canadienne. Bonjour Steve Yezel.
Ah bonjour, comment allez-vous, Bruno?
Vous êtes le copropriétaire de True Coffee Roasters. Vous êtes torréfacteur de café, vous importez du café en grains, vous le traitez et vous le revendez, c'est ça?
Oui, c'est ça, on fait de la torréfaction pour notre propre café. Nous fournissons du café aux restaurants et d'autres cafés dans le Wisconsin des États autour de nous. Et un peu le but, c'est de, d'abord, on adore le café, mais c'est d'acheter des cafés, comment on dit, respectueux de la terre, des fermiers, des producteurs. Et aussi, les cafés doivent avoir un goût de terroir, c'est ça.
Vous importez du café de quel pays?
Un peu partout. Notre acheteur du café se rend à tous les pays qu'on achète. Du Mexique, au Nicaragua, au Guatemala, au Pérou, en Colombie, au Brésil, à Sumatra, et au Kenya, en Éthiopie, et puis Ouganda, Rwanda, un peu partout, quoi.
Alors, est-ce que les tarifs, les droits de douane annoncés par Donald Trump vous inquiètent? Et si oui, pourquoi?
Ah oui, sûrement, ça nous inquiète beaucoup, beaucoup. L'une des principales raisons, c'est l'incertitude, c'est bien ça. C'est, en fait, on ne peut pas savoir ce que l'avenir va donner. Même nos importateurs, ils n'ont aucune idée quel pays sera soumis à des droits de douane et combien. Et à ce moment, nous pensons que le café que nous avons déjà acheté, qui est encore, comme on dit, sur l'eau, quoi, dans les bateaux, seront soumis à des droits de douane supplémentaires, sûrement.
Quelles vont être les conséquences pour votre entreprise, True Coffee Roasters? Est-ce que les prix ont déjà augmenté?
Nous n'avons pas augmenté les prix à cause des tarifs, mais ça va se faire bientôt. Mais nous avons déjà augmenté les prix à cause d'autres choses, à cause de la récolte au Brésil et en Vietnam. Et alors, ça tombe pas bien parce que je ne sais pas combien nos clients peuvent soutenir. Mais c'était pas trop content de quand on a augmenté les prix avant ça et je ne sais pas ce que l'avenir va nous amener.
À votre avis, Steve Yezel, est-ce que les Américains, qui, on le sait, consomment beaucoup de café, sont prêts à payer plus cher?
Moi, j'ai peur que ça va, ils peuvent soutenir les prix augmentés jusqu'à un certain point. En fait, j'ai fait des questionnaires à mes clients avant tout cela. Comment est-ce qu'ils pouvaient soutenir des prix plus élevés? Ils ont dit, peut-être, peut-être pas. Et en fait, comme beaucoup d'entreprises, nous avons quelques clients qui nous ramènent la majorité des revenus. Et s'ils tombent, c'est très grave.
Dernière question, Steve Yezel, comment réagissent les chefs d'entreprise américains autour de vous? Est-ce qu'ils sont tous inquiets? Est-ce que certains pensent que Donald Trump va faire ce qu'il dit, va réussir dans sa politique économique?
Tout le monde est inquiet maintenant. Et en fait, je connais personne qui croit que Trump va réussir dans ses, je peux dire, bêtises, dans ses politiques. Non, je connais personne qui est pro-Trump à ce moment.
Merci beaucoup, Steve Yezel, copropriétaire de True Coffee Roasters dans le Wisconsin.
Je vous en prie.
Thomas Philippon, l'inquiétude de ce petit chef d'entreprise, est-ce que selon vous, il risque d'y avoir de la casse pour l'emploi et donc une potentielle crise sociale ?
Bon, c'est clair que les perspectives de croissance sur l'année qui vient ont fortement baissé. Est-ce que la baisse sera assez forte pour qu'on soit en récession? Ça, c'est pas complètement évident, en fait, parce que les fondamentaux de l'économie avant l'élection de Trump étaient quand même assez bons, en fait, dans tous les domaines, à part les finances publiques qui étaient mal gérées, qui maintenant sont encore plus mal gérées, mais qui n'étaient déjà pas très bien gérées avant. Mais à part ce point noir, entre guillemets, les fondamentaux de l'économie étaient assez forts. Donc, du coup, l'impulsion était là. Alors, les politiques de Trump vont ralentir l'économie. Il y a un risque de récession, mais c'est pas garanti. Donc ça va quand même, c'est comme ça qu'il va davantage déterminer la situation de l'emploi pour toutes les entreprises et les petites en particulier. Mais disons que le risque est pas nul qu'il y ait une récession et qu'il y ait beaucoup d'emplois détruits. C'est pas nul.
Les interrogations économiques, Thomas Philippon, elles valent aussi pour les entreprises étrangères qui travaillent directement avec les États-Unis dans l'automobile, par exemple. Le fief, c'est Détroit, dans le Michigan. Et si l'on passe une rivière, on est au Canada, à Windsor. 250 000 habitants, c'est la capitale canadienne de l'automobile où se trouve Marine de la Moissonnière, journaliste à RFI. C'est là que l'on assemble les Chrysler dans l'usine Stellantis, une usine qui a fermé il y a quelques semaines. Marine de la Moissonnière y a rencontré ses employés.
On est au pied du pont Ambassador qui relie le Canada aux États-Unis. On est à Windsor, côté canadien donc. Et en face, sur l'autre rive, à 600 mètres environ, c'est la ville de Détroit, les États-Unis. Ce pont, c'est celui qu'empruntent les camions qui transportent les pièces détachées et les voitures fabriquées dans les usines canadiennes et américaines dans un système très intégré, interdépendant. Les pièces détachées peuvent faire jusqu'à 8 fois le trajet. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, allez, une dizaine de camions qui circulent dans un sens et dans l'autre. Ces voitures et ces pièces détachées, elles sont fabriquées notamment dans l'usine Stellantis, où on a un rendez-vous avec des ouvriers. Ils ont repris le travail aujourd'hui après une pause de 15 jours. Stellantis voulait se donner le temps d'analyser les conséquences de la hausse des tarifs douaniers de 25%.
Oui, je suis bien content de revenir au travail, mais on ne sait pas si on va travailler la semaine prochaine, ou la semaine après, ou la semaine après.
On ne vous a pas prévenu aujourd'hui, on ne vous a rien dit?
Non, ils ne savent pas. De jour à jour, ils ne savent pas parce que M. Trump change son idée tous les jours. C'est pas qu'on est en colère, c'est juste qu'on est bien désappointé parce que c'est nos amis. On a toujours travaillé ensemble. Pourquoi faire ça tout d'un coup?
Des amis qui nous ont planté un poignard dans le dos, se désole encore Denis Desaunier, 53 ans, 31 ans d'ancienneté. Pour son fils Blaise, 21 ans, qui travaille à l'usine depuis septembre dernier, eh bien, tout cela n'a aucun sens.
Donald Trump n'arrête pas de dire « l'Amérique d'abord ». Mais tout seul, ce n'est pas possible. Il a besoin de partenaires. Il veut toujours flouer quelqu'un, obtenir plus que les autres. Ça ne marche pas comme ça. Avec ses amis, il faut être équitable.
Marine, on entend ce sentiment de trahison et puis à Windsor aussi une certaine angoisse.
Oui, les revirements de Donald Trump inquiètent à Windsor. Prochaine annonce très attendue ici, le 3 mai prochain, quand le président américain dira si les pièces détachées sont elles aussi taxées à 25%. Ryan Donnelly est le président de la Chambre de commerce régionale de Windsor-Essex.
Current situation right now. Tons of ambiguity, tons of uncertainty.
Il y a tant d'ambiguïté, tant d'incertitudes. Si on était sûr que les droits de douane pour toutes les pièces détachées allaient augmenter de 25%, au moins on pourrait réfléchir à des stratégies. On pourrait avoir des discussions franches avec les importateurs aux États-Unis et au Canada pour savoir qui va prendre en charge ces coûts supplémentaires. Mais pour l'instant, c'est impossible. Avec ces incertitudes, c'est très dur de faire des affaires. Toute l'industrie automobile est sur pause. Il y a déjà eu des licenciements à Windsor dans le secteur automobile et à Détroit aussi, mais je n'ai pas de chiffres précis à vous donner.
En tout cas, le mois dernier, dans tout le Canada, 33 000 emplois ont été perdus et ça devrait donc continuer. Certaines entreprises installées à Windsor pourraient délocaliser leur production aux États-Unis. Ryan Donnelly, lui, compte sur les autorités pour mettre de l'argent sur la table pour les retenir. La Chambre de commerce encourage aussi les entreprises à ne plus mettre tous leurs œufs dans le même panier. Doit-on continuer à dépendre autant de l'industrie automobile? Sans doute que non. Il faut diversifier nos activités et trouver de nouveaux clients. 95% des exportations de notre région vont aux États-Unis. On est très
dépendant.
Mais le Canada est le pays du G7 qui a le plus de partenaires commerciaux. Avec les Grands Lacs, nous avons facilement accès à des ports. Le port de Windsor fonctionne très bien. Ça doit nous permettre de vendre nos produits à d'autres provinces canadiennes, mais aussi à l'international.
Alors tout ça, ce sont des changements qui prendront du temps. Dans l'immédiat, ce qui est dans tous les esprits à Windsor, ce sont les négociations en vue d'un nouvel accord commercial entre les États-Unis et le Canada. Négociations qui devraient commencer dans quelques jours, début mai. Ce sera le premier gros dossier du nouveau Premier ministre.
Marine de la Moissonnière, envoyée spéciale de RFI à Windsor, à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Thomas Philippon, on revient vers vous. Le pari de Donald Trump d'attirer des entreprises étrangères sur son sol, est-ce qu'il a une chance de réussir?
Mais ce n'est pas le pari de Trump. Biden avait commencé à faire ça. D'ailleurs, ce n'était pas le seul. Mais l'attractivité pour les entreprises étrangères, c'est une politique américaine assez constante. C'était exactement la politique sous Biden. Simplement, ce n'est pas avec des tarifs qu'on le fait. Et ce ne sont pas avec des tarifs erratiques comme ceux qu'on a vus. Mais là, on est au-delà de ça. Le problème, c'est que là, ce qui fait la force de l'économie américaine, c'était quand même qu'on respecte les institutions et le droit, l'état de droit, notamment dans les affaires. Et c'est ça qui est en train d'être détruit. Donc ça aura un impact à long terme beaucoup plus fort que toutes les gyrations de court terme.
Mais le fait de faire venir le géant des semi-conducteurs taïwanais, TSMC, par exemple, ça peut être vu comme une première réussite?
Mais ça, c'était déjà prévu sous Biden, donc c'est pas Trump.
Les promesses de baisse d'impôts, y compris pour les particuliers, la difficulté, c'est qu'il faut encore être suivi par le Congrès américain et que même dans le camp républicain, tout le monde ne suit pas Donald Trump dans cette idée.
Oui, alors ça, c'est la lubie habituelle des républicains de baisser les impôts des riches. Et d'habitude, ça se passe entre guillemets bien, au sens où le dollar est une valeur refuge et en particulier les bons du trésor de long terme américain sont l'actif de référence était l'actif de référence au niveau mondial. Ce qui, en gros, permettait aux États-Unis de financer des déficits à bas coût et d'avoir une politique fiscale complètement irresponsable. Ce qu'ils ont eu depuis assez longtemps maintenant. Et donc ça, c'était un privilège qui venait du fait que les investisseurs internationaux, c'est-à-dire les épargnants du monde, considéraient la monnaie américaine et les bons du trésor du gouvernement américain comme étant l'actif sûr par excellence. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce privilège incroyable que les États-Unis avaient qui est en train de disparaître. Et donc, dans ce monde-là, financer leur dernière baisse d'impôts complètement délirante, ça va pas être aussi facile qu'avant. Et donc, du coup, bien malin qui peut prévoir ce qui va sortir du Congrès. Là, tel que c'était parti, ils avaient l'idée quand même de taper dans les transferts sociaux très fort, notamment la, enfin, ce qui est l'avant de la Sécu et de l'assurance maladie en France. C'est pas exactement comme ça, mais enfin, c'est un peu, c'est une comparaison qui est à peu près correcte pour financer des baisses d'impôts qui ciblent surtout les plus riches. Mais c'était énorme. Ils voulaient rajouter encore 5 000 milliards ou 6 000 milliards de dettes en fonction de la manière dont on fait les calculs. Le marché aurait peut-être accepté d'acheter 5 ou 6 000 milliards de dettes américaines de plus il y a 6 mois. Aujourd'hui, c'est pas du tout évident. Ce qu'on voit, c'est que spécifiquement sur le taux à 10 ans, la prime, le privilège d'emprunter à bas coût à 10 ans, il est en train de disparaître à vitesse grand V. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui explique aussi le bras de fer avec Jay Powell et la Banque centrale américaine.
Alors justement, cette relation sous tension hein, entre Donald Trump et la Fed et son patron Jerome Powell, Donald Trump voudrait que la Fed baisse ses taux d'intérêt. Est-ce qu'il peut être entendu malgré les résistances de Jerome Powell?
J'espère pas. Un des acquis très importants d'ailleurs qui faisait consensus parmi les républicains et les démocrates jusqu'il n'y a pas si longtemps, c'est que on a tous intérêt à avoir une banque centrale indépendante. Indépendante, ça veut pas dire qu'ils sont là, qu'ils ont le droit de faire n'importe quoi. Indépendante, ça veut juste dire qu'on leur donne un objectif clair, qui est de stabiliser les prix et l'inflation, tout en maintenant un taux de chômage aussi bas que possible. Mais qu'ensuite, la manière de le faire, on le délègue parce que justement, on veut pas politiser le processus à court moyen terme. Donc ça, c'était quand même un acquis institutionnel assez fort, qui d'ailleurs a fait école dans le reste du monde. Hein. Les banques centrales ont largement adopté ce modèle dans le reste du monde. Et ce que veut Trump, évidemment, c'est revenir là-dessus, de manière à ce que la banque centrale obéisse au pouvoir ou au président. Ça, c'est probablement le jeu le plus dangereux auquel il joue aujourd'hui, parce que s'il y a une chose qui ferait fuir les investisseurs, c'est justement l'idée que la banque centrale ne soit plus indépendante. Donc là-dessus, je pense qu'il y a quand même de la résistance.
Vous restez avec nous, Thomas Philippon. Dernière escale dans ce voyage dans l'Amérique de 2025 sous Donald Trump. On n'oublie pas la côte ouest, la Californie. Bonjour Loïc Piala.
Bonjour.
Les géants de la tech, de la Silicon Valley que l'on a vu à l'investiture de Donald Trump attendaient beaucoup du président américain. Est-ce que la réalité est à leur goût après 100 jours? Où en sont-ils entre leurs espoirs et d'éventuelles désillusions?
Alors il y a deux domaines dans lesquels le président américain était attendu et il n'a pas déçu, sur le papier en tout cas. Il est encore trop tôt pour juger des résultats concrets. Les crypto-monnaies donc et l'intelligence artificielle. Il a fait de David Sachs, homme d'affaires de la Silicon Valley, l'un de ses soutiens les plus actifs durant la campagne, son tsar de la crypto et de l'IA. Dès le 23 janvier, Donald Trump a signé un décret présidentiel faisant tomber, je cite, les barrières au leadership américain en matière d'intelligence artificielle. C'est ce que la tech attend de lui, la dérégulation, quand l'administration Biden voulait au contraire cadrer l'IA le plus possible. Il y a eu d'ailleurs une annonce d'ampleur au lendemain de son investiture, le projet Stargate, soit 500 milliards de dollars investis notamment par OpenAI, sans beaucoup plus de concret. Depuis, Sundar Pichai, le PDG de Google, veut aussi croire un développement de l'infrastructure nécessaire pour la croissance de l'IA, très gourmande en énergie. Et Donald Trump en a fini avec la guerre contre la crypto menée par la précédente administration, selon les frères Winklevoss, célèbres, vous savez, pour leur rôle dans la création de Facebook. En gros, la pression de la SEC, le gendarme américain de la bourse, sur le secteur diminue pendant que le président américain fait lui preuve d'un enthousiasme visible pour la crypto-monnaie.
Voilà pour les gagnants, Loïc. Mais pour l'instant, il n'y a pas que des gagnants dans cette relation entre Donald Trump et la tech.
À ça, les secousses boursières provoquées par les droits de douane font craindre une récession et la tech, évidemment, n'en veut pas plus que les autres. C'est un Armageddon qui se prépare, décrit Dan Ives, célèbre analyste du secteur. Début avril, la perte de valeur boursière cumulée de Meta, Apple, Google, Tesla et Amazon approchait les 2000 milliards de dollars. Sur le premier trimestre, la fortune personnelle de Jeff Bezos a fondu de 47 milliards de dollars, par exemple, d'après Bloomberg. L'incertitude des marchés n'aide pas non plus les capital risqueurs ou les startups qui espèrent se faire racheter. Pour Mark Zuckerberg, le problème dépasse les questions financières. C'est celui dont le retournement de veste a été le plus spectaculaire après l'élection présidentielle. Il a courtisé Donald Trump plusieurs fois dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Il a pris des mesures pour lui plaire, comme la fin du fact-checking sur Facebook ou l'entrée de Dana White, proche du président et patron de l'UFC, la très populaire Ligue d'arts martiaux mixtes, au conseil d'administration de Meta. Beaucoup y ont vu une logique transactionnelle, alors que Meta est poursuivi par le gouvernement américain pour position monopolistique, sauf que si Zuckerberg espérait un règlement à l'amiable, eh bien c'est raté parce qu'il y a dans l'entourage de Donald Trump des personnes sinon hostiles au moins méfiantes du monde de la technologie et ces personnes l'auraient dissuadé de donner à Zuckerberg ce qu'il espérait. Et puis deux inquiétudes à noter, le débat sur les visas H-1B, ceux des travailleurs qualifiés, très communs dans la Silicon Valley, mais dans l'administration Trump, certains n'en veulent plus, ou en tout cas plus autant. Autre problème, les nombreux chercheurs qui envisageraient de quitter le pays, alors que, comme on l'a vu avec Harvard, le président met la pression sur les universités. Or, la Silicon Valley finit souvent par bénéficier de la recherche universitaire, financée entre autres par le gouvernement américain.
Merci Loïc Piala. Toute dernière question, Thomas Philippon, la relation avec les géants de la tech qu'on avait vu lors de l'investiture, elle est peut-être aussi en train de se dégrader. La relation avec Elon Musk qui dit qu'il veut aujourd'hui un peu plus se concentrer sur Tesla et un peu moins sur la réduction des dépenses de l'État.
Ouais, mais là c'est pareil, faut sortir de la rhétorique, il s'est pas concentré sur rien du tout, il a juste fait des bêtises. C'était un truc complètement idéologique, il a rien coupé du tout. Il a juste, de manière complètement aléatoire, supprimé des programmes qu'il n'aimait pas, dont certains étaient très utiles au reste du monde, notamment l'aide aux plus pauvres, pour par exemple l'aide aux victimes du sida à travers le monde. Des trucs qui coûtent extrêmement peu d'argent, qui sont très efficaces, qu'il a supprimés, ça va créer des morts totalement inutiles dans le reste du monde. C'est ça qu'il a fait. Il a absolument rien fait en termes d'efficacité de la dépense publique. Donc ça, c'est quand même du vent, c'est une escroquerie intellectuelle. Et c'est moralement condamnable. Donc ensuite, qui retourne vers Tesla, oui, bah forcément, il fait tellement n'importe quoi qu'il a réussi à se mettre à dos la plupart de ses clients. Moi, j'avais une Tesla, je l'ai vendue, je me suis acheté une Kia. Et donc, effectivement, il a réussi à détruire. Je pense que quand on écrira des cas d'école, la destruction de valeur sur Tesla par Musk, là, en l'espace de 3 mois, c'est, je crois pas qu'il y ait d'exemple dans l'histoire du capitalisme, quand même, faut se rendre compte. Donc ça me paraît clair. Les gens de la tech, ils ont fait semblant, ils ont été cyniques comme d'habitude, quoi. Ils ont fait un peu semblant de croire que Trump ferait pas les bêtises ahurissantes qu'il avait promis. Donc maintenant, ils déchantent, c'est un peu trop tard, et ils sont tous en train d'essayer de se protéger en faisant un deal avec lui au cas par cas pour éviter les retombées les plus négatives de ses politiques erratiques.
Merci à vous Thomas Philippon.
Je vous en prie.
Thomas Philippon, professeur d'économie à la New York University, à la Stern School of Business. Merci à tous. C'était Écho d'ici, Écho d'ailleurs. On se quitte avec Childish Gambino, chanson coup de poing sur le racisme contre les Noirs aux États-Unis. This is America. Hey, this is America. Woo. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. What I'm whipping up. This is America. Yeah, yeah. Don't catch you slipping up. Hey. Don't catch you slipping up. Hey. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. Hey. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah, yeah. I'm gonna get it. Watch me move. This is Sally. That's a tool. Yeah. On my Kodak. Black. Ooh, know that. Yeah. Bands, 100 bands, contraband, contraband, contraband. I got the plug on who a hawker. Whoa, they gonna find you like Baka.
Cette émission vous a été proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, la banque de référence pour un impact durable sur l'intégration et la transformation de l'Afrique de l'Ouest.